Ouellet.
Yes, sir.
En direct.
Non.
En direct avec JC.
Yes, sir.
Et Patricia.
Radio X.
Ouais, quelle drôle de stratégie. L'histoire de complètement faire disparaître le nom de son propre parti politique.
Sont talonnés, là.
C'est pas le sujet de notre chroniqueur, mais c'est parce qu'on pendant la pause, on regarde l'actualité puis on continue à surveiller ce qui se passe. Et là, évidemment, tous les candidats de la CAQ se font demander pourquoi le nom de la CAQ est disparu. Écoute, c'est comme si je te disais qu'un restaurant très connu maintenant veut plus qu'on dise son nom, mais qu'on dise le restaurant du clown.
Oui.
Tu sais, c'est...
Oui.
C'est parce qu'on vit, avec, on le sait.
On le nomme à tous les jours, le nom du restaurant.
Bref, c'est pas le sujet de notre chronique. D'ailleurs, j'ouvre son micro à l'instant. Christian Rioux, qui est là avec nous, comme à chaque semaine maintenant. Bonjour, M. Rioux. Comment vas-tu?
Bonjour, ça va très bien. Très, très bien.
Ben, puis écoute, je sais que c'est pas le sujet de ton... Mais as-tu déjà pensé à une stratégie aussi loufoque que de faire disparaître ton branding?
Oui, mais ça, c'est, vous savez, les partis au pouvoir, surtout les partis qui ont déjà fait deux mandats, puis dont la population est fatiguée, en tout cas, ils font pas nécessairement, là, c'est aller un peu loin, faire disparaître le nom du parti, mais en général, ils le mettent en tout petit dans les affiches. Donc, c'est pas la première fois, je pense, que ça se fait. C'est encore beau qu'ils mettent pas le nom du parti libéral du Canada, parce que le nombre de photos avec Mark Carney commence à en avoir beaucoup.
C'est vrai, ça semble des alliés, là. On aurait dit que M. Carney fait campagne, effectivement. Ben, tant qu'à être dans le Carney, on va ouvrir avec ton sujet, Christian, puis moi, très rapidement, puis je me tire pas de rang, mais très rapidement, quand j'ai vu sortir Mark Carney pour nous dire, bon, ben finalement, ça, les négociations ont achoppé, on s'est levé, on a quitté, une espèce d'effet de toge. Nous avons quitté avec fracas, on a claqué la porte parce qu'il voulait s'attaquer aux Français. Moi, j'ai dit, est-ce qu'on parle bien du Mark Carney qui a invalidé la langue de travail française dans l'armée canadienne, qui veut contester la loi 96 devant la Cour suprême? C'est-tu le même gars là, qui me dit qu'il va défendre le français? Déjà, ça sonnait cru, là.
Oui, bien écoutez, je pense que c'est évidemment, on a l'impression que c'est pas le même gars, mais je pense que c'est un bon négociateur, puis c'est un fin stratège, Mark Carney, on
ah
le
oui.
voit bien.
Ah oui.
Claquer la porte ben, à Washington, ça fait partie des stratégies de négociation. C'est quelque part, c'est normal comme les envolées de Donald Trump. C'est comme ça qu'on négocie. Hein. Je pense que c'est une question de temps avant qu'on revienne à la table de négociation. Mm-hmm. Ça fait partie des arguments. Mais invoquer le français comme limite à ne pas franchir et comme cause, entre autres, là, de la rupture des négociations, ça, c'est vraiment brillant. C'est très stratégique. Mark Carney sait qu'il y a des élections au Québec. Il veut tout sauf... évidemment, le Parti québécois, il a pas le goût, au milieu de son mandat, d'affronter un référendum québécois comme l'a fait Jean Chrétien. Donc, tout pour ça. Et je pense Carney est brillant. Il a réagi très, très rapidement, évidemment en instrumentalisant la question du français. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là, qu'elle n'est pas dans les listes que les Américains ont, mais je pense que c'est un élément extrêmement marginal dans ces négociations-là. Les négociations n'ont pas à choper là-dessus, ça c'est évident. C'est sur beaucoup d'autres sujets, l'automobile par exemple.
Puis tu dis brillant, tu sais, moi j'ai même un petit bug avec l'utilisation. Brillant, stratégiquement, je comprends ce que tu veux dire, c'est brillant. Alors que moi, j'y vois une sournoiserie, tu sais, on est en train vraiment de manipuler, puis moi je le vois comme à air ouverte, tu sais, je veux dire, à moins vraiment que vous regardiez vraiment pas l'actualité, puis que vous y allez sur le feeling et l'émotion. En le disant, je réalise qu'il y a beaucoup d'électeurs comme ça quand même, mais... On est dans le « je vais le faire », il y en a qui vont s'en rendre compte, mais j'y vais quand même. T'sais, c'est de la stratégie qui n'est même plus cachée, là.
Oui, c'est une grosse stratégie, mais qui a l'air de marcher, en tout cas, quand on regarde je pense que Mark Carney est le politicien à peu près le plus populaire aujourd'hui au Québec, plus que Mme Fréchette, plus que M. Plamondon. Et donc, c'est une stratégie, je pense, qui risque, en tout cas, de marcher, pas auprès de tout le monde. Là, ça va probablement braquer ceux qui veulent voter pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça va peut-être lui ramener, d'ailleurs, peut-être un certain nombre d'électeurs, sachant que tout ça se passe. Mais il est évident que la question du français, c'est une question extrêmement mineure. Hein. Il y a trois affaires dans la question, dans ces négociations-là, qui pourraient éventuellement concerner le français. Il y a l'étiquetage, mais ça, c'est une question réglée. C'est une vieille affaire, l'étiquetage. Ouais. Barack Obama avait ça dans sa liste de demandes au Canada à l'époque, et ça ne s'est jamais fait. Je ne sais pas si vous regardez les produits américains, il y a de plus en plus d'Espagnols sur les étiquettes.
Oui, c'est vrai.
Américaine. Donc, je pense que c'est un peu ridicule. La question de la découvrabilité, là, c'est-à-dire de l'accès aux sites canadiens et en français sur Internet, ça, c'est une question complexe, une question nouvelle. C'est une question d'algorithme aussi pour permettre ça. Et en soi, je pense que ça ne peut pas faire dérailler les négociations. La vraie question, la seule vraie grosse question qui pourrait concerner le français, c'est les subventions, c'est la taxe Netflix, c'est-à-dire la fameuse taxe qui permettrait au Canada, qui obligerait en fait les GAFAM à subventionner des productions locales, des productions canadiennes, des productions québécoises, des films canadiens, des films québécois. Puis ça, c'est déjà hors des négociations, c'est-à-dire que Trump, Carney a déjà reculé là-dessus.
Ouais, c'est vrai.
Je vous souligne qu'en France, cette taxe-là est de 20%.
Wow.
En Italie, c'est 16%. Comme taxe, Carney avait mis de l'avant, je pense que le CRTC avait mis de l'avant 15% et Carney avait retenu 5%. Ouais. Donc c'est la chose dont Trump a vraiment peur et dont les Américains ont vraiment peur, c'est de ça. C'est ça qui leur fait peur. L'Union européenne n'a pas adopté ce genre de taxe-là au niveau de l'ensemble de l'Europe encore. Ça ne s'est pas fait à cause des pressions américaines. C'est la même chose au Canada.
Est-ce qu'ils ont les mêmes menaces de parce que je sais qu'il y a certaines plateformes qui ont dit dans ces conditions-là, nous, on va quitter carrément le territoire. Je ne sais pas si c'est discuté en Europe.
Écoutez, en France et en Italie, ils sont toujours là.
C'est appliqué.
Absolument. Et c'est appliqué. En France, c'est appliqué. On le voit d'ailleurs dans quand
est-ce
on
qu'il y a
voit
une augmentation?
Films, là...
Est-ce qu'il y a une augmentation des forfaits, on sait-tu?
Non, les forfaits sont. Je dirais que les forfaits sont très bons en Europe, en France en général. Écoutez, je ne peux pas vous dire si ça n'a pas augmenté de 0,5% le forfait, mais c'est pas du tout quelque chose qu'on remarque. Mais c'est vraiment, je vous dirais que si les Américains ont peur de quelque chose et s'il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas, c'est ça.
Il semblait avoir aussi une affaire plus sur l'automobile. Et on dirait qu'on a voulu ménager Doug Ford. Peut-être qu'on connaît sa sensibilité légendaire. J'ai des extraits d'une entrevue qu'a donnée Jameson Greer, donc l'ambassadeur, qui parle un français, ma foi, impeccable. Ben, impeccable. Il y a quand même un petit accent, mais... Pour vrai, il parle mieux français que Mark Carney, là, et de loin. Là. D'ailleurs, concernant...
Ça soulève ce point-là. Je sais que ça ne change rien des négociations, là, mais c'est quand même... c'est un irritant pour moi là, que la personne qui représente les États-Unis parle mieux français que mon premier ministre.
Ouais.
Ça, c'est vraiment paradoxal et c'est presque à éclater de rire, on pourrait dire, parce que Greer a un diplôme de Sciences Po et un diplôme de la Sorbonne en France.
Ben oui.
Il a vécu là-bas. Ses enfants parlent le français. Greer parle un très, très bon français. Contrairement, je dirais, à Carney, qui, lui, a un diplôme de Harvard et de Oxford. Il vient d'un pays supposément bilingue. Il n'a pas trouvé moyen d'aller faire, je ne sais pas, un diplôme à Paris ou en tout cas dans un pays francophone. Et j'ajouterais même que moi, l'intervention de Donald Trump qui a dit « je respecte les Canadiens français, pour nous, la question du français, c'est pas une question à négocier, c'est important », moi, ne m'a pas surpris. Ça ne me surprend pas parce que Trump, c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect, notamment par rapport à la France. On l'a vu régulièrement. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'affrontement avec Macron. Il y en a eu. Il y a eu des invectives.
Mais Trump aime la France comme elle est, c'est-à-dire les dorures, les palais, les châteaux.
Oui, sa première visite en France, c'était pour le 14 juillet. C'est quand même important, inviter Trump pour la fête nationale. Et il était revenu en disant, moi, je veux une parade militaire comme les Français ont. Il voulait ça. Après ça, il est revenu pour l'inauguration de Notre-Dame de Paris, ce qui était important. Il y a eu des très, très bons mots pour la France. Et vous savez que Trump veut un système électoral avec une identification claire comme la France. Son modèle est copié sur la France où il y a une carte d'électeur pour pouvoir voter. Et on ne peut pas voter non plus par correspondance. En France, c'est impossible. Le système électoral est extrêmement contrôlé. Donc, Trump a un tropisme plus français, par exemple. Normalement, les présidents américains ont un tropisme allemand. Ils vont en Allemagne d'abord et avant tout. Trump déteste les Allemands. Je pense qu'il est allé là juste une fois pour un G7. Il ne les aime pas du tout. Alors qu'en France, il est venu au moins quatre fois. Et donc, Trump a tendance à respecter les pays. C'est un nationaliste. Il a tendance à respecter les gens qui sont nationalistes.
Et qui ont un nationalisme assez fort. Un nationalisme qui s'exprime.
Oui, exactement. D'où son tropisme, je dirais, pour les Russes et Vladimir Poutine.
Oui,
il aime les gens virils. Là, il aime les gens qui mettent le poing sur la table, qui se font respecter. Et si les Québécois se font respecter, c'est pas sûr qu'ils gagneront pas une certaine forme de respect de Donald Trump. Oh. Et le Canada, c'est pour ça aussi qu'ils respectent pas beaucoup le Canada, parce que le Canada est un pays quand même largement soumis aux États-Unis.
Le Canada est un pays à la recherche de son identité, là, ni plus ni moins. Le Canada, c'est difficile de décrire. Tu sais, j'entendais l'espèce de ritournelle là, depuis le dernier affrontement aux négociations Canada-États-Unis. L'espèce de « nous allons protéger notre culture ». Puis on avait la discussion en onde. Nos artistes canadiens-anglais, c'est des artistes américains. Justin Bieber puis Jim Carrey, c'est pas des artistes canadiens. Oui, ils sont nés au Canada.
Les Américains savent même pas qu'ils sont canadiens.
Mais c'est ça, tu sais. C'est comme une espèce. Regarde, Dolly Parton est décédée et même sur nos chaînes françaises, on a fait des 30 minutes pendant un bulletin de nouvelles d'hommage à Dolly Parton, qui est une amie. Tu sais, en pleine guerre anti-américaine, on fait des hommages à des artistes américains. Donc, le Canada, c'est un peu ça. Et c'est son problème depuis longtemps.
Oui, c'est ça. Son problème depuis longtemps, je dirais peut-être à partir des années 50. Il y a une sorte de virage qui est pris au Canada à ce moment-là où on s'intègre de plus en plus à la politique, à l'économie américaine, avec Pearson, entre autres, en particulier. Pearson va faire une sorte de virage et Trudeau va le poursuivre malgré son
Trudeau a fait des tests là, avec les kilomètres, là, puis il est en essayant de nous donner une nouvelle façon de voir la vie, mais ça n'a pas collé tant que ça.
Oui, mais quand on regarde pas juste les discours, mais qu'on regarde, parce que Trudeau a eu une période où il y avait des discours, où il disait qu'il fallait diversifier notre économie, etc. Mon œil, ça s'est jamais, jamais, jamais fait. Au contraire, après ces déclarations-là, l'économie canadienne s'est de plus en plus intégrée à l'économie américaine. Et des fois, on a l'impression que plus on est intégré, plus des fois on a... Le Canada a des espèces de petites poussées de discours nationalistes pour dire non, c'est pas vrai, non, on est une nation, nous autres, on défend nos intérêts, mais en pratique, vous savez, c'est pas du tout ce qui se produit. Est-ce que il y a des économistes qui se demandent est-ce que c'est pas trop tard, en fait, parce que cette intégration-là est tellement poussée aujourd'hui. En pratique, sur le plan économique, on l'est, le 51e État américain. Pas tout à fait sur le plan politique, mais sur le plan économique. Notre défense est largement contrôlée et dirigée par les Américains. On est dans NORAD. Donc, les velléités d'indépendance de M. Carney, je pense qu'il faut les mettre un peu entre parenthèses. Et je vous parie n'importe quoi qu'à la fin du mandat de Carney, la diversification de l'économie canadienne, ça ne bougera pas.
Et là, M. Carney nous annonce qu'il retourne encore faire un grand discours envers l'Union européenne. Est-ce que toi, ça te jase tes contacts en Europe? Est-ce que ça... Ça a eu de l'écho. Je comprends que le discours de Davos avait fait énormément jaser. Mais est-ce qu'on a gardé cette espèce de... Comment je dirais? Cette espèce de mood-là M. Carney, on va l'intégrer. Est-ce que ça jase encore autant en Europe? Est-ce qu'il y a vraiment une intention de se rapprocher tant que ça?
Ça a eu un certain écho en Europe, mais vous savez, les Européens, je pense, connaissent mal l'économie canadienne, ils connaissent mal le Canada, ils ne réalisent pas à quel point l'économie canadienne est intégrée à l'économie américaine. Donc, il y a beaucoup, je pense, il y a beaucoup d'ignorance là-dedans. Et vous savez, le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, qui date déjà de plusieurs années, ce traité-là n'a jamais été accepté et adopté par l'Assemblée nationale française.
Ah ouais.
Puis il s'applique quand même parce que la France est minoritaire et on l'applique quand même, mais les députés français ne l'ont jamais adopté. Puis si on le propose demain matin, la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, il ne sera pas voté. Il n'y a pas de majorité en France pour un traité comme celui-là. Donc, les Français, les Européens en général ne vont pas développer et accentuer leur collaboration économique avec le Canada. Déjà, ce qu'il y a là, toute la question du bœuf, puis les Européens ont peur du bœuf aux hormones, toute la question des produits, notamment alimentaires canadiens, ça fait déjà beaucoup jaser. Et ça, là-dessus, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait des grands mouvements du côté de l'Union européenne, même si les discours, les Européens, Mme von der Leyen va se féliciter que Carney parle, adopte une attitude un peu plus ferme à l'égard des États-Unis. Mais la réalité des faits, ça ne changera pas et il n'y aura pas plus. En tout cas, du côté de l'Union européenne, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup plus d'échanges avec le Canada.
Je voulais juste dire que l'ironie de la chose, là, c'est que M. Carney va se présenter en Europe pour aller jaser aux Européens, mais il ne rouvre pas le Parlement pour jaser aux Canadiens.
Oui.
Oui, c'est paradoxal.
Vraiment, là, tu sais, c'est parce que là, il n'est pas le premier ministre européen. Là.
Ah, pas encore.
non, mais c'est paradoxal, effectivement, qu'il ne s'adresse pas au Parlement. Mais quand on regarde le fonctionnement de l'Union européenne, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que l'Union européenne signe des traités alors qu'il y a un grand nombre de pays qui peuvent être en désaccord. Donc, il y a une petite propension impériale, je dirais. Chez Carney, comme il y a à Bruxelles aussi.
Un bon Britannique. Merci, Christian.
Oui.
Au plaisir. Bonne semaine.
Ben, c'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Salut, bye. Christian Rio. Alors, moi, je ne me peux plus d'avoir un nouveau palier de gouvernement européen. Hey. On va être assez bien. Pour le bénéfice des auditeurs qui ne l'auraient pas entendu, juste un petit extrait de Jameson Greer, l'ambassadeur américain qui parlait mieux français que le premier ministre canadien.
Bon, je dirais que cette question de discrimination, on a parlé de ça, mais enfin, l'équipe canadienne était très claire que c'était trop important pour le Québec et l'identité québécoise. Donc, pour nous, on montre beaucoup de flexibilité. On comprend bien que c'était important pour le Québec. Et pour nous, ce n'était pas, comme on dit, une ligne rouge pour nous. Donc, les Canadiens, ils n'ont jamais fait quelque chose comme ça.
Ah, fait du bien d'entendre un anglophone qu'on comprend quand il parle en français, hein?
No way!
Ce fait!
No way!
Ce fait!
Fréchette, elle a dit no way!
13-22, on revient.
Ouellette.
Yes, sir.
En direct.
De retour dans un instant.
Radio X.